Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Après les attentats suicides de Paris la semaine dernière, les ONG qui travaillent pour la Syrie trouveront-elles encore leur place et leur financement? C'est l'une des questions posées à travers le portrait de l'activiste Racha Abaziyed que dresse la réalisatrice Camille Leprince dans son quatrième portfolio sonore consacré aux femmes dans les révolutions arabes. Un tableau contre le fanatisme et pour la tolérance, c'est l'histoire que l'écrivain et journaliste Olivier Weber nous raconte dans son dernier livre « L'enchantement du monde ». Il nous plonge au cœur de l'islam du XVe siècle à travers la rencontre du sultan Mehmed II et du peintre vénitien Bellini. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
Les femmes en résistance dans les printemps arabes, c'est le thème d'une série de chroniques dont Orient Hebdo se fait l'écho régulièrement et qui sont portées par Camille Leprince. Bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour parler de ces 5 portfolios multimédia que vous consacrez aux femmes dans les révolutions arabes. Après l'Algérie en mai, la Tunisie en juillet et l'Égypte au mois de septembre, ce quatrième volet consacré à la Syrie. Et vous avez choisi de mettre en avant Racha Abaziyed, fondatrice en 2011 de l'association Syrie MDL, MDL qui veut dire moderne, démocratique et laïque. Parlez-nous de cette femme et de son combat.
Elle vient de la ville de Dera. En fait, elle a été obligée de fuir son pays à l'âge de 11 ans. Donc aujourd'hui, elle a une quarantaine d'années. Donc elle est venue en France parce que ses parents étaient des opposants politiques qui fuyaient déjà la dictature à l'époque du père Hafez el-Assad. Et puis, donc elle est arrivée en France, elle a construit sa vie, elle est devenue citoyenne française. Et puis, elle avait plutôt coupé les ponts, à vrai dire, avec son pays, ou en tout cas avec une revendication culturelle ou politique liée à la Syrie. Et puis, c'est vraiment en 2011, au moment du début de la révolution syrienne, qu'elle s'est sentie à nouveau syrienne, que ça s'est réveillé en elle et qu'elle a décidé de s'engager et de fonder cette association.
L'association donc Syrie MDL, Syrie moderne, démocratique, laïque, qui est très engagée aux côtés des humanitaires et notamment des civils syriens engagés sur le terrain et dont on parle finalement assez peu.
Oui, alors l'association au départ c'était un portail en fait d'information qui visait à apporter une autre vision de la Syrie pour la France, pour les Français, parce que Racha est française, elle se sent française et elle a envie aussi de pouvoir promouvoir une autre image de son pays. Donc le portail, au départ, s'orientait davantage vers des figures politiques, des figures littéraires, le patrimoine culturel, montrer aussi la richesse de ce pays. Et puis peu à peu, plus la révolution s'est transformée en guerre et plus elle a été meurtrière, plus Racha a aussi transformé son portail pour en faire vraiment un espace aussi de résistance, montrer des figures de femmes comme Razaï Zaitouneh, des femmes donc qui, comme Razan par exemple, étaient des militantes des droits de l'homme, mais aussi bien d'autres, des figures politiques plus historiques. Et puis enfin, autour de ce portail, Racha a décidé au fur et à mesure de rentrer dans des actions concrètes pour venir en aide aux civils.
Par exemple ?
Alors par exemple, aujourd'hui, elle travaille avec une association qui est basée au Liban, une association syrienne qui travaille avec les enfants syriens réfugiés dans un camp de Beyrouth et notamment sur l'éducation informelle. Alors l'éducation informelle, c'est quoi ? C'est tout ce qui est des méthodes qui permettent aux enfants d'exprimer leur créativité, leur peur, leur frustration, leur désir parce que en fait aujourd'hui la plupart des fonds internationaux et notamment du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, les fonds qui étaient au départ dédiés à ce ce type d'activité ont été énormément réduits et aujourd'hui ils se concentrent plus sur des actions purement humanitaires ou sur des actions d'éducation formelle. Or, ce qui compte aussi pour ces enfants-là, c'est justement les médiums de l'éducation informelle, justement jouer avec des marionnettes, faire de la musique, dessiner, c'est pouvoir exprimer ses traumatismes, mais aussi développer une culture de la paix et justement sortir d'une situation de misère, d'injustice, qui est aussi quelque part la base du potentiel de radicalisation et de violence de ces générations-là. Donc il y a un véritable travail qui est fait pour faire que ces générations se développent dans des conditions les meilleures possibles, ou en tout cas les moins mauvaises possibles.
Cette association a déjà connu une résonance en Syrie et dans la proche région. Est-ce qu'elle est connue, cette association, aujourd'hui ?
Oui, elle est bien repérée dans les milieux franco-syriens ou de Français qui s'intéressent à la Syrie en France. Elle est aussi connue sur le terrain, mais je dirais que sur le terrain, les choses fonctionnent aussi par des réseaux de solidarité locaux, de proximité, de survie. C'est-à-dire que les choses se font aussi beaucoup de manière informelle, dans la clandestinité, pour pas mettre les gens en danger. Donc c'est aussi fondé sur des réseaux qui existent de longue durée et qui permettent en fait de se construire sur une confiance mutuelle entre des gens qui étaient engagés depuis longtemps et parfois même, comme je le disais tout à l'heure, avant la révolution et avant la guerre, pour venir en aide aux plus vulnérables en Syrie.
Alors Camille Leprince, dans l'actualité évidemment, il y avait en fin de semaine dernière ces attentats suicides à Paris. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, par exemple, pour le financement de son association, de cette association Syrie moderne démocratique laïque, que ces attentats ?
Eh bien, justement, en fait, c'est très pragmatiquement des questions que se posent toutes les associations qui travaillent avec la Syrie aujourd'hui, et en particulier les petites associations qui, justement, travaillent avec des groupes civils locaux, de proximité, qui travaillent dans la survie. C'est que aujourd'hui, les bailleurs de fonds, mais aussi les systèmes bancaires sont de plus en plus à l'affût d'un indice d'une quelconque participation au terrorisme. Et donc, les associations et les acteurs locaux travaillent dans la suspicion, en fait, dont ils sont victimes. Donc, c'est assez difficile. Et puis aussi, les associations comme celle de Racha ont peur, quelque part, qu'aujourd'hui, le mot Syrie soit amalgamé avec le mot terrorisme. Ils sentent aussi une usure de la population française, une usure de leurs donateurs, qui était déjà palpable auparavant, hein, puisque au bout de 5 ans, les gens se sont quelque part habitués à voir des images de violence en Syrie. Et là, quand la violence les touche chez eux, ce que craint Racha, c'est qu'il y ait finalement un repli encore davantage marqué et qu'il y ait une baisse de la solidarité internationale.
Un dernier point concernant le financement de l'association, comment ça se passe ?
Alors très concrètement, là par exemple, l'association Syrie moderne démocratique laïque organise à partir du 3 décembre à Paris, au centre Reuilly, dans le 12e arrondissement, une exposition qui s'appelle « Nous, enfants de Syrie ». Et c'est une exposition qui cherche à sensibiliser le public justement sur la situation des enfants et à rendre la parole aux enfants réfugiés syriens. Mais c'est aussi l'occasion, évidemment, de lancer une collecte qu'elle a lancée sur le site Hello Asso et aussi sur le site syriemdl.net. Cette collecte doit permettre justement de favoriser des actions de long terme pour construire une culture de la paix parmi les futures générations syriennes.
Merci Camille Leprince.
Merci.
Réalisatrice de Ma Joconde, Ma Guernica, Mon Amour, Femmes et Révolutions, une série de 5 articles avec portfolio sonore sur les femmes dans les printemps arabes. Vous êtes également chargée de mission Maghreb Mashrek au CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement.
Orient Hebdo sur RFI.
Alors qu'en terre d'islam, la représentation de l'homme à son image est interdite, le peintre vénitien Gentile Bellini est invité à Istanbul pour réaliser le portrait du sultan, protecteur des croyants. Nous sommes en 1479 et Mehmed II vient de vaincre l'Empire byzantin. Dans l'enchantement du monde, Olivier Weber brosse ainsi en creux une histoire de l'Empire ottoman.
Un livre sur l'Empire ottoman, mais surtout un livre sur la mission d'un peintre qui s'appelle Bellini, qui est un peintre de Venise, qui est allé à la cour du sultan ottoman, et le sultan ottoman, qui était le jeune conquérant de Constantinople, qui est tombé donc aux mains de l'Empire des Turcs, a dit au peintre, tu vas briser avec moi un tabou de l'islam qui est de ne pas représenter l'homme à son image. Donc tu vas me peindre. Et en fait, c'est aussi une histoire d'amour, c'est un roman d'aventure, un roman d'apprentissage, mais c'est aussi un roman contre le fondamentalisme avant l'heure, puisque le sultan également doit traiter contre des fondamentalistes qui s'appellent les membres de la secte des Hachichins, qui a donné le mot assassin. Et en fait, c'est du Daesh avant l'heure. Donc c'est aussi une manière d'ouvrir la tolérance au sein de l'Empire ottoman et de l'islam, qu'avait donc fondé le jeune sultan Mehmed II qui a pris Constantinople à 21 ans.
On peut dire que l'histoire se répète d'une certaine
façon. Oui, l'histoire se répète absolument. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui de par le monde, et surtout au Moyen-Orient, est davantage une guerre à l'intérieur de l'islam. C'est l'islam contre l'islam. Il faut que ce soit le monde arabo-musulman qui trouve la réponse à Daesh.
Est-ce que vous trouvez des résonances avec ce qui s'est passé en Afghanistan, vous qui avez beaucoup couvert cette région, qui avez connu Massoud?
Oui, alors il y a beaucoup d'analogies, je dirais, parce qu'il y a le Kurdistan, donc qui est cette poche autonome au nord de l'Irak, avec des rebelles, des montagnards, de fiefés résistants, on va dire, et puis l'Afghanistan, qui a été le pays où l'armée rouge, l'une des deux plus grandes armées au monde, est tombée à cause d'une armée de va-nu-pieds. C'était ça, l'armée où la résistance du commandant Massoud et des autres Afghans. Et simplement, alors là aussi, il y a une sorte de rapport de vaste communicant, c'est qu'il y a eu 2001. Massoud est mort 2 jours avant les attentats contre le World Trade Center. Ça, c'est important. Mais il y a une sorte d'état de grâce, en quelque sorte. La résistance a continué à opérer, le régime taliban est tombé, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'état de grâce s'est fermé en 2003, lorsqu'il y a eu intervention américaine en Irak contre Saddam Hussein, en mars 2003. C'est une guerre qui a fait 1 million de morts, chiffre officiel américain, ou quasiment officiel, et deuxièmement, qui a coûté 2000 milliards de dollars. Et là, il y a une sorte de réaction, de retour du boomerang, en quelque sorte, sur l'Afghanistan. Et l'Afghanistan a connu les kamikazes, les attentats suicides, les décapitations, tenez-vous bien, de directeurs d'école pachtoun, l'ethnie majoritaire, qui enseignait à des filles pachtoun, etc., etc. On a tué d'autres humanitaires étrangers. Et là, c'est une période inédite de l'Afghanistan qu'on a vu. On est vraiment dans la phase de la djihadisation, de l'internationalisme islamiste, et c'est sûrement la pire des choses pour l'Afghanistan et bien sûr pour l'Irak et pour la Syrie.
L'écrivain, journaliste et ancien diplomate Olivier Weber, L'Enchantement du Monde est édité chez Flammarion.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, la libération de Jonathan Pollard, c'est la une des journaux et des médias israéliens ces dernières 24 heures.
Oui Eric, c'est l'événement que les Israéliens attendaient depuis 30 ans. La libération de Jonathan Pollard, l'espion israélien qui avait fourni à ses commanditaires des centaines de milliers de documents classés top secret aux États-Unis. Sa libération, souligne un éditorialiste de Mariv, est le symbole d'un échec israélien cuisant et retentissant. La presse souligne que pendant 5 ans, Pollard ne pourra pas s'installer en Israël. Il ne pourra pas non plus avoir des contacts avec des journalistes. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, regrette dans Makor Rishon, le journal de la droite religieuse et des colons, que l'espion n'ait pas bénéficié d'une remise de peine. Haaretz accuse de son côté des politiciens israéliens assoiffés de pouvoir et un candidat malheureux à la tête du Mossad d'avoir entraîné à l'époque Israël dans cette aventure dont les conséquences sur les relations entre Israël et les États-Unis se font encore ressentir aujourd'hui.
Voilà pour cette libération. Mais bien entendu, Michel, les événements en France ont monopolisé les médias en Israël cette semaine.
Et tous les superlatifs ont été utilisés par la presse israélienne pour qualifier l'attaque terroriste à Paris et la fusillade de Saint-Denis. Maariv publie ce week-end un supplément spécial consacré à cette série d'événements sous le titre de « Troisième guerre mondiale ». Et il y a de nombreux articles dans ce magazine. Je vous propose de citer le titre de l'un d'entre eux. « Il faut permettre aux Kurdes de vaincre ». C'est la solution proposée par le journal. Israël Hayom, le journal proche du Likoud, le parti du Premier ministre, publie également un supplément sous le titre d'Europe, ligne de front. Le journal tente d'expliquer que le combat, notamment, porte sur la conception de l'attitude à adopter pour cette bataille, même temps adoptée par Haaretz, qui estime que ce n'est pas comme cela que devrait avoir l'air un pays en pleine lutte contre le terrorisme. Les décisions américaines de l'après 9-11 sont bien loin d'être adoptées en France, indique le journal. Yedioth Ahronoth revient sur les propos du Premier ministre français à l'Assemblée nationale pour faire son titre, la crainte, une attaque chimique ou bactériologique.
Et dans la presse arabe aussi, Alexandre, les suites des attentats de Paris continuent de faire la une.
Oui, tout à fait. La plupart des analystes estiment que les attentats de Paris auront pour conséquence une restriction des libertés individuelles tant en France que dans le reste de l'Europe. Alors, l'occasion pour certains éditorialistes égyptiens qui sont pro-régime d'affirmer que les menaces sécuritaires provoquent des mesures d'exception où que ce soit. Pourquoi alors avoir critiqué l'Égypte, cible elle-même de nombreux attentats terroristes, quand elle a eu recours à l'état d'urgence et au cour martial? Les journaux du Maghreb, eux, accordent une large place aux visites du président tunisien et du roi du Maroc en France pour exprimer leur solidarité, mais aussi coopérer en matière de lutte anti-terroriste islamiste, notamment au niveau du renseignement. La presse arabe est aussi préoccupée par les conséquences que pourraient avoir les attentats de Paris pour les Français et résidents d'origine arabe ou de confession musulmane.
Également, Alexandre, dans la presse arabe, les retombées du crash de l'avion russe dans le Sinaï égyptien, revendiquées par l'État islamique.
Oui, et si la presse arabe, dans sa majorité, estime que l'avion russe a bien été abattu fin octobre par une bombe placée à bord par le groupe État islamique, la plupart des journaux égyptiens continuent à affirmer qu'aucune preuve matérielle ne permet de confirmer cette hypothèse. Des analystes soulignent que les relations entre le Caire et Moscou ont souffert d'un froid après l'annonce par le président russe que l'avion parti de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh avait été détruit par une bombe. Des relations qui semblent à nouveau s'être normalisées après une conversation téléphonique entre les présidents Abdel Fattah el-Sissi et Vladimir Poutine. Et les journaux égyptiens accordent aussi une grande place aux visites de promotion du tourisme intérieur vers Sharm el-Sheikh qui sont effectuées par des artistes et des hommes politiques égyptiens.
À retenir encore dans la presse israélienne, Michel Paul, la vague de violence en Israël et en Cisjordanie.
Oui, elle reste à la une de toute la presse israélienne. Les victimes, notamment de la journée de jeudi, c'était la journée la plus meurtrière de la vague de violence actuelle. 5 morts en l'espace de quelques heures, en plein cœur de Tel Aviv et aussi en Cisjordanie. Les succès de Daesh en Europe incitent les Palestiniens à suivre la même voie, écrit un commentateur. Journée sanglante, titre Yedioth Ahronoth, avec un de ses chroniqueurs qui proclame qu'Israël doit retirer désormais ses gants.
Alexandre, plusieurs articles dans la presse arabe sur le démantèlement d'une cellule de l'État islamique au Koweït.
Oui, il s'agit, selon la presse koweïtienne, d'une cellule qui comprend 10 personnes, dont un Koweïtien, un Libanais, un Égyptien, 5 Syriens et 2 Australiens. Alors, 6 personnes ont été arrêtées au Koweït, tandis que les 4 autres se trouvent à l'étranger. Alors, la cellule était chargée, entre autres, de l'achat de missiles anti-aériens portés à l'épaule de fabrication russe, des missiles achetés en Ukraine, qui étaient ensuite acheminés vers la Turquie, puis vers la Syrie. Un des membres de la cellule, un changeur à la frontière turco-syrienne, jouait le rôle de banquier en Turquie, et la cellule se chargeait aussi du recrutement de djihadistes, du financement et de logistique pour le compte de cette organisation qui est devenue en quelque sorte un État.
Enfin, le journal Al-Sharq Al-Awsat publie une étude sur la stratégie de la terreur de l'État islamique.
Oui, le journal indique que le groupe État islamique a réussi à faire peser sa menace sur le monde entier alors que la majorité des analystes occidentaux et des responsables avaient pensé qu'il s'agissait uniquement d'une sorte de préoccupation locale. L'étude explique comment l'État islamique s'est formé à partir de djihadistes d'Al-Qaïda, à commencer par l'Égyptien Saif al-Adl, un proche de Ben Laden et ex-officier de l'armée égyptienne, jusqu'au Saoudien Abdelaziz al-Anzi, des stratèges, théoriciens, théologiens qui ont jeté les bases militaires et économiques de ce qu'est devenu l'État islamique.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Ce sont deux photos du même bâtiment, la mairie de Tel Aviv, éclairée en bleu, blanc, rouge en début de semaine en solidarité avec la France et aux couleurs du drapeau israélien en fin de semaine après les attentats meurtriers de jeudi. Tout un symbole.
Merci Michel, merci Alexandre, merci à François Porcheron qui réalise cette émission. Vous pouvez retrouver Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite un nouveau journal sur RFI.
Géopolitique, le débat.